Voilà donc, beau moment aujourd'hui pour cette présentation de la programmation 2022-2023 de l'Orchestre National de Lille. Et je suis avec Fabio Sinacori qui est directeur de la programmation. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour.
Donc c'est toujours difficile de résumer une programmation et d'en montrer toute la complexité et surtout l'approche pour le grand public.
Oui, disons que c'est un exercice presque impossible. Parce que quelque part, quand on fait une programmation sur une année, nous sommes un peu obligés, contraints de brasser très large, d'avoir une programmation très éclectique et très ouverte. Toutefois, nous essayons quand même de trouver des lignes de force, des fils rouges qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver une tension, une curiosité, un chemin où le public peut se retrouver.
Alors chaque personne, on veut dire, du public potentiel peut être touchée par un des éléments qui va être son angle d'entrée dans la programmation.
Bien sûr, et il faut l'accepter comme ça, surtout. Et c'est quoi, c'est ça qui est enrichissant et intéressant pour le public. Ils ont, disons, on leur donne différentes portes et différentes clés. Une fois qu'ils passent cette porte, grâce à la clé qu'ils ont choisie, après, l'univers derrière cette porte est gigantesque. Mais comme vous dites, il faut donner cette curiosité, cette envie à ce public de trouver parmi cette offre l'œuvre, le compositeur, l'artiste qui les touche les plus, qui veulent découvrir ou redécouvrir. Et tout est là, l'alchimie et la recette complexe parfois de cette tension, je dirais presque, entre la programmation et après le retour du public.
Alors il y a évidemment les très grands concerts, les symphonies, les vedettes aussi, on en parlera après. Et puis il y a des mini-formes très intéressantes comme les deux mini-concerts qu'on a entendus tout à l'heure. Vous pouvez nous présenter les artistes et puis leurs œuvres?
En fait, ce sont trois musiciens de l'orchestre. Vous avez entendu d'abord la sonate en trio de Debussy. C'est le troisième mouvement d'un cycle de sonates que Debussy a commencé, mais malheureusement on n'a pas terminé. Et les trois musiciens, c'est l'harpe solo de l'orchestre, c'est Anne Leroy Petit. L'alto, c'est Madame Cyril Vendriose, c'est Vendriose, altiste donc, tutiste de l'orchestre. Et le flûtiste, c'est un des deux flûtes solo de l'orchestre, Clément Dufour. Et donc, ils ont interprété le troisième mouvement de cette sonate en trio. Une sonate très particulière, évidemment. Moi, je dis toujours, Debussy, c'est un compositeur dans le sens unique, dans le sens, il est venu de rien et il a laissé rien après. Dans le sens, il n'y a pas eu des émules après. Il y a pas, après, une île déserte que j'adore. J'aimerais bien être en style avec lui. Malheureusement, il est décédé en 1918, mais voilà. Et donc, c'est une pièce un peu particulière. Vous entendez parfois un côté brutal. Vous entendez au début l'alto qui joue avec l'arche sous le chevalet, ça grince. Et après, vous rentrez dans un moment magique avec la harpe et la flûte. C'était un compositeur extraordinaire. Et donc ça, c'est la première pièce que vous avez entendue. Et la deuxième, c'est une toute petite pièce que j'ai choisie avec eux. Ça s'appelle Entracte, de Jacques Ibert, aussi compositeur français, qui en fait, cette pièce après a été appropriée par plein d'autres musiciens, parce que vous avez un tract parfois à la trompette, vous avez un tract à plein d'autres instruments un peu bizarres. C'est très léger, c'est une France champagne, un peu pétillante, un peu comme ça.
En même temps, on retrouve des accents espagnols un peu.
Tout à fait, bien sûr. Ibert a beaucoup de cette mouvance impressionniste a voulu toucher au côté exotique, comme on dit souvent, des Espagnes, de Moyen-Orient et tout ça. Et bien sûr, vous avez ce côté-là, mais vous avez aussi ce côté toujours très élégant, français. Moi, j'apprécie, moi je suis italien, vous entendez l'accent, évidemment. Moi, je l'entends moi-même en parlant. Évidemment, il y a cette touche un peu hispanique, mais en même temps avec cette élégance française. J'aime beaucoup.
Voilà. Donc, parler de musique française, ça a un sens dans un orchestre ou dans un lieu culturel comme le vôtre. Vous, en tant qu'Italien, vous avez en tête des choses différentes de ce qu'on pense, nous, de la musique française?
Ah, je dirais, je parlerai en présence de mes avocats, mais je ne vous dirai pas ça. Donc ça, vous pouvez l'effacer. Non, vous pouvez le laisser. Mais en fait, les Italiens... D'abord, je ne suis pas certain d'être un échantillon type d'un Italien. Hein. Commençons par ça. J'ai vécu seulement 17 ans en Italie. Après, j'ai beaucoup vécu en Belgique. Et c'est simplement depuis 4 ans que je suis en France. Les Italiens et les Français ont toujours eu beaucoup de des disputes, beaucoup d'orgueil mal placé les uns contre les autres. Ça a toujours été, et ça l'est encore un peu maintenant, un peu chauvin les uns et les autres. Voilà. Mais moi, ce que je retire, moi, il faut toujours, je trouve, dans ce genre de discussion périlleuse, moi, je prends toujours le meilleur. Donc, moi, je trouve que ces 4 ans maintenant que j'ai passé ici à l'orchestre m'ont fait ouvrir l'esprit à cette musique française qui, pour moi, a un côté, comme je disais tout à l'heure, cette élégance, cette transparence que moi j'aime beaucoup, cette sensualité, mais qui est voilée, mais qui est présente. Ce n'est pas la passion forte qu'il peut avoir avec, en Italie, ou la passion profonde de Brahms ou de Strauss, ça n'a rien à voir. Plutôt dans les timbres, dans les textures fines. Et j'aime beaucoup ce côté sensuel des choses. J'adore aussi, et ça fait paraître bizarre, mais ce côté mystique aussi parfois. Parce que dans une musique, que ce soit Messiaen, que ce soit Boulez, Dutilleux, vous avez une école française qui finalement a beaucoup évolué. Comme vous sentez, je ne vous parle pas de la France, de Berlioz et de Bizet. Berlioz restera pour soit italien, soit américain, allemand, le père de l'orchestration avec cette symphonie fantastique, il a bouleversé tout, disons. Et donc voilà, c'est un grand, un des tout grands évidemment. Et mais parfois je me demande si je, c'est pas une critique, mais c'est plutôt un état des lieux. Je trouve que souvent en France on focalise souvent sur plutôt 2 ou 3 compositeurs, et c'est très dommage parce qu'en fait il y a une richesse gigantesque. Ici, on l'a dit tout à l'heure, on a Saint-Saëns, Gounod, Berlioz, Roussel, Coquelin, Ibert, et évidemment Ravel, Debussy font partie du voyage. On ne peut pas les mettre de côté évidemment, mais je vous dis, les Dutilleux, les Messiaen, Boulez et les compositeurs contemporains, Gratien Vinci, mais plein d'autres. Je crois que c'est parfois un peu dommage. Et je crois qu'il y a cette ribambelle gigantesque de compositeurs qui sont vraiment pas à découvrir, mais sur pas à délaisser.
Alors, au niveau des symphonies, c'est évidemment des choses attendues, hein, les grands concerts, etc. Il y a quand même une anecdote assez croustillante que nous a rappelé tout à l'heure le directeur, hein, donc qui exprimait la crainte des grands compositeurs d'achever leur 9e symphonie.
C'est vrai et c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs qui se sont arrêtés à la 9e, mais Shostakovich en a fait 15. Voilà. Par exemple, Sibelius n'en a fait que 7. Il était très jeune, il s'est arrêté à 7. Et après, il a fermé la boutique et il n'a pas composé pendant presque 30 ans. Mozart en a fait 41. Hein, et Haydn, je crois, une centaine. Donc, disons que dans la période romantique et post-romantique, on dit que... Voilà. Moi, je m'arrêterai à ça. Je ne sais pas si c'est vrai que Schubert aussi, enfin, Schubert, c'est particulier parce que Schubert, on sait, les dates des symphonies sont un peu confuses. La 9e, en fait, c'est la 8e. La 8e, c'est la 9e. L'inachevé, en fait, était commencé avant la 8e. Donc, mais non, Brahms n'en a fait que 4. Magnifique. Il fallait pas en faire plus. Voilà. Dvorak, c'est vrai qu'il en a fait 9, hein. Mais, oui, je ne pense pas qu'il faille vraiment. Mais c'est une jolie légende.
Est-ce qu'actuellement, et peut-être on en montrera cette année, hein, il existe des compositeurs qui sont capables de faire de belles symphonies, enfin belles au sens noble du terme, actuellement?
Je dirais oui, certainement, ça c'est sûr. Vous allez entendre une sorte de symphonie chorale avec notre compositeur en résidence, mais les formats changent, le temps change. On est au 21e siècle. le paramètre, avant, le paramètre temps n'existait pas. Les symphonies de Mahler sont bien la preuve de ça, Bruckner aussi. On pouvait se permettre de faire des symphonies, de faire des commandes de symphonies de 80 minutes, 90 minutes, il n'y a pas de souci, grands effectifs. On est au 21e siècle, on doit faire attention. On doit faire attention pour des paramètres sociaux, pour des paramètres financiers, logistiques. Et donc, nos compositeurs de maintenant sont avec nous. Sont dans la... Donc, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire une symphonie de 90 minutes.
Est-ce qu'on peut présenter donc le compositeur en résidence à l'ONL cette année ?
C'est un garçon charmant d'abord, intelligent, je dirais intelligentissime. Il est argentin, mais il a fait ses études en France et on a été avec François il y a quelques années le découvrir à son examen de finale au CNSM de Paris, où il a fait, on a joué des œuvres à lui. Magnifique. Il a ce côté sensuel de la musique française, tout en gardant ses racines argentines. Il a été un étudiant, un élève assidu de Etvoche. On le sent aussi beaucoup dans l'écriture. Il a une technique d'écriture presque parfaite. Dans les compositeurs, il y a différents paramètres dont il faut faire attention. Il y a le côté émotionnel. Ça touche pas, ça communique pas. Mais aussi le côté technique, parce que il faut connaître l'orchestre, il faut connaître l'organologie, les instruments. Est-ce que ça je peux, ça je peux pas. Et surtout, comment l'un et l'autre instrument peuvent s'imbriquer l'un l'autre. Et ça, c'est un maître. Il est un coloriste, il connaît bien et il sait super bien faire. Comme disait aussi Alexandre tout à l'heure, c'est un compositeur qui touche terriblement. On comprend tout de suite dans les œuvres les émotions qu'il veut faire passer. C'est très rare. Très vite, on se sent... Ah oui, c'est la mélancolie, la joie, la pureté, le côté mystique. C'est quelqu'un qui aussi, il sera souvent présent pour des préludes ou aux autos de concert. Vous aurez la possibilité de le voir, de le rencontrer. Très simple, très facile d'accès. Mais c'est quelqu'un qui est très profond dans le contenu sensuel, dans le contenu intellectuel de ce qu'il veut faire avec ses œuvres. C'est pour ça qu'on dit la lumière c'est vraiment le voyage qu'il a voulu faire avec nous, c'est le voyage de la lumière mystique, intérieure, les chakras et tout ça. Donc pour lui c'est très important, et l'œuvre qu'on va entendre en juin 23, ce sera prise des textes coptes. Donc il a étudié le copte pour pouvoir le mettre en musique. Pour vous dire, être un compositeur, ce n'est pas simplement avoir la mélodie, boum, hein, non. Au XXIe siècle, il faut autre chose. Quelqu'un comme Puccini ou quoi, c'était un mélodiste extraordinaire. Est-ce que c'était un grand? Oui, bien sûr. Combien de personnes il a fait pleurer? Et encore, la musique, finalement, c'est de la communication. Mais la profondeur, peut-être, n'est pas aussi profonde que d'autres compositeurs. Et voilà.
Alors, justement, le public, est-ce qu'il est séduit par ces grandes œuvres qui ont fait des succès populaires ? Et comment on peut l'intéresser à des choses plus nuancées, plus subtiles, plus, d'une certaine manière, plus abouties culturellement ?
Alors, je crois que, l'auditeur est sensible à des choses qu'il reconnaît. Et c'est facile, évidemment. Les choses qu'on ne connaît pas, on a peur. La crainte de l'inconnu, et souvent ça nous amène à des situations délicates. Ah, c'est un. Deux, il faut pas sous-estimer le public. Parce que le public, c'est comme vous et moi. Le public, c'est un être humain, et ils peuvent être touchés par une œuvre qu'ils ne connaissent pas. Mais là, le problème est souvent de les faire venir dans la salle. Une fois qu'ils sont, entre guillemets, captifs, ils sont touchés. On le voit dans leurs yeux, on leur voit, ils sont stressés, ils sont angoissés par un thème, par une ambiance, et après ils sont détendus par un moment de paix. Le public, comme vous et moi, il est touché, mais il faut les avoir dans la salle. Donc ils voient Webern, ils voient Schoenberg, Auberg, ils ont peur. Oh, mais qu'est-ce qu'on va entendre? On va rien comprendre. Ce n'est pas pour nous. Combien de fois je n'en sais pas pour nous? Mais bien sûr, c'est pour vous. C'est tant pour vous que pour nous. Les émotions sont pour tout le monde, que je sache. C'est complexe.
Donc, en fait, pour une partie du public, il faut le rendre captif pour le captiver et le capter.
Exact. Vous avez capté ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. Mais c'est très difficile pour la communication, pour le marketing, de faire venir ce public. Parce qu'il faut raconter une histoire. Il faut leur expliquer. Il faut les motiver à venir. Mais en même temps, on peut dire, ah, vous allez entendre, je ne sais pas moi, la neuvième de Dvorak, un nouveau monde. Vous allez entendre l'héroïque. Non. Vous allez entendre des choses que vous ne connaissez pas. Mais finalement, la bonne question à poser, mais pourquoi venez-vous dans la salle au concert? Est-ce que vous venez pour passer un bon moment? Déjà, le fait de passer un bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier les tracas de la maison. Ça veut dire peut-être de se détendre. C'est peut-être d'être titillé, d'être nous pousse un peu au-delà de notre comfort zone. C'est ça venir à un concert, passer un moment avec des amis, partager avec les autres qui sont dans la salle, partager avec les musiciens, les artistes. Mais en même temps, on peut aussi raconter des histoires. L'un n'empêche pas l'autre, mais je crois que parfois, il faut partir par là.
Alors pour certains publics, je pense aux jeunes, aux familles, il y a un accompagnement qui est fait, voire même une préparation avant de voir les concerts. On donne quelques codes, quelques clés.
Mais écoutez, ça dépend évidemment des types de concerts, mais ici, par exemple, on essaye à l'Orchestre National de Lille à faire pas mal de préludes, donc avant les concerts, une sorte de clé d'écoute, j'aime pas du tout ce mot, voilà, et on essaie de le faire de la façon la plus détendue, pas ludique, parce que ça, c'est pas nécessairement ludique, mais détendue de toute façon. On essaye de faire une vulgarisation avec V majuscule, évidemment, de niveau, si on peut dire ça, c'est un peu dichotomique, mais en invitant parfois les chefs d'orchestre à ce prélude, les solistes, les compositeurs, parfois des musicologues qui essayent de se mettre au diapason de ce qu'on veut faire. Et c'est toujours trop peu de monde qui viennent. Ce serait mieux qu'il y ait plus de monde. Parfois, on est 30, 40, parfois on est 100, donc c'est bien. Mais si, on peut accueillir 1500 personnes. Donc oui, je ne dis pas c'est une goutte dans l'océan, mais voilà, ça c'est, disons, un des axes. Mais aussi, on le fait après les concerts. Donc après les concerts, on appelle ça les bords de scène. Et là, on est vraiment question-réponse avec le public. Et donc ça, c'est très agréable. Et c'est souvent les moments où on démystifie un peu et on rend les artistes beaucoup plus proches. Et c'est important aussi. On essaie de mettre vraiment tout en place pour justement effacer ce clivage, qui est souvent un clivage, je crains, sociétal. On dit, oui, l'époque Bourdieu n'est plus là. Moi, je crois qu'on y est toujours. Ces sociologues, je crois qu'avaient bien compris, sur le français, oui, Bourdieu avait bien compris les choses. Et même si on est au 21e siècle, évidemment, des choses ont changé, ont évolué, mais quand même, le maillage social reste parfois un frein. Et ces codes surtout, et nous sommes là un peu pour les casser, ces codes. Et les casser, mais pour justement construire un pont, et même si on veut une grande autoroute entre les publics et nous, parce qu'on en a besoin, et je crois qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est eux les premiers qu'ils en ont besoin.
Alors, cette année, on l'a dit, un compositeur résident qui va apporter de la lumière, on en a quand même besoin, et ça va éclairer cette saison, lui donner peut-être un attrait, une attraction particulière, pas une attraction lunaire, hein, mais du soleil carrément.
Ça va donner un éclat sûrement, une brillance, enfin j'espère. J'espère aussi que les autres œuvres, les autres compositeurs, les autres chefs d'orchestre ou solistes qui sont là pourront aussi créer cet attrait, cette lumière sur cette saison. Voilà, et c'est toujours comme un bébé qui naît pour nous. Hein, donc, mais voilà, j'espère que le public sera au rendez-vous.
Merci Fabio, et très bonne journée, et bonne saison pour à la fois cette salle, hein, ici, le nouveau siècle, etc., mais aussi les lieux que vous allez irriguer.
Merci beaucoup, merci à vous. Et alors, je voulais dire deux petites choses par rapport au concert en région dont on a parlé, Guilin. On en a eu un hier, justement, à Audruic. Il y a deux choses qui sont pour moi très important dans ces concerts. D'abord, c'est que chaque fois qu'on y va, le public sur place est d'une gentillesse gigantesques. Ils sont heureux, ils sont affectueux, ils mettent les petits tas dans les grands, et je trouve que c'est touchant et ça nous fait du bien. Ça, c'est un. Et deux, c'est le professionnalisme et surtout la volonté artistique de nos musiciens. Ils peuvent être ici sous les planches du Nouveau Siècle, mais à Oudruyck, ou à Hem, ou à Busquets, ou au Concertgebouw d'Amsterdam, ils se donnent toujours à 100-200%, et c'est important, ce respect la musique d'une part, mais aussi du public. Il n'y a pas un public A et B, comme on disait tout à l'heure. Il y a des hommes et des femmes, et ça c'est extraordinaire. Et ça c'est vraiment un grand marque de respect et d'auteur d'esprit de nos musiciens, de notre orchestre.